Et 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Sporama, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde. C'est dans un instant, ce sera avec Bagassi Koura. Je vous propose tout d'abord un bulletin d'information. L'armée nigériane a annoncé l'arrestation d'un suspect en rapport avec un attentat à la bombe qui a fait hier au moins 40 morts à l'issue d'un match de football dans le nord-est du Nigeria. Et le Cameroun a déclaré la guerre à Boko Haram. L'armée camerounaise affirme avoir tué au moins 60 membres de la secte islamiste Issa Napon.
Selon la radio nationale, l'armée camerounaise a tué ces hommes armés et membres de Boko Haram. Ils ont été piégés à Dabanga, un village de la région de Maroua, dans le nord du pays. Selon Fonka Awa, gouverneur de cette région, il s'agit d'une opération réussie. Ebenezer Akanaga, journaliste à la radio nationale, estime que les militaires auraient dû agir plus tôt pour priver Boko Haram de cette base arrière. Le mois dernier, le Cameroun et le Tchad, deux voisins du Nigeria, ont déclaré la guerre à Boko Haram. Yaoundé a déployé dans la foulée quelques 2000 soldats à la frontière avec le Nigeria. Signalons aussi que les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés début avril au Cameroun ont été libérés. Leur enlèvement n'avait jamais été revendiqué, mais Boko Haram est pointé du doigt.
Et 20 morts et plus de 80 blessés dans de violents combats à Benghazi, c'est en Libye, entre des islamistes et le général renégat Khalifa Haftar. Selon les autorités, les affrontements ont commencé quand le groupe islamiste Ansar al-Sharia a attaqué une base des troupes fidèles au général Haftar, tuant et blessant plusieurs soldats. L'armée de l'air a riposté par des frappes aériennes sur les camps et les bastions des milices islamistes qui ont tiré des grenades et des missiles anti-aériens. En retour, les combats ont déclenché la panique à Benghazi. Les habitants se sont cloîtrés chez eux et les écoles ont été fermées. Le nouveau président du Malawi, Peter Mutharika, a reçu l'investiture aujourd'hui, deux jours après sa prestation de serment. Il succède à Joyce Banda qui avait réclamé l'annulation des résultats du scrutin, mais sa demande a été rejetée la semaine dernière par la haute cour du pays. Dans son allocution d'investiture, Peter Mutharika, frère défunt du président Binguwa Mutharika, a lancé un appel à la réconciliation.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le président Obama entame ce lundi une tournée européenne avec des escales en Pologne, en Belgique et en France. En Pologne, M. Obama va s'entretenir avec le président élu, Petro Poroshenko. Une rencontre qui intervient après, alors que Kiev poursuit une rencontre qui... son offensive contre les rebelles séparatistes de l'Est russophone. Le chef de l'exécutif américain va se joindre à 7 membres du G8 mercredi et jeudi à Bruxelles. En France, Barack Obama va assister vendredi à la commémoration du débarquement allié en Normandie. Le président russe Vladimir Poutine est également invité, mais aucune rencontre n'est prévue entre les deux hommes. Par contre, Poutine va s'entretenir en Normandie avec le premier ministre britannique David Cameron. Le président palestinien Mahmoud Abbas a investi aujourd'hui le nouveau gouvernement d'Union nationale, une étape majeure puisque depuis 7 ans, le Fatah et le Hamas dirigent chacun une partie du territoire palestinien. Les détails avec Nicolas Pinault.
Oui, la cérémonie a eu lieu à Ramallah, non sans péripéties. Les deux camps se sont disputés à la dernière minute la décision du président Abbas de ne pas nommer un ministre des Affaires carcérales. Ce gouvernement est issu de l'accord politique conclu en avril dernier par les deux frères ennemis. Les États-Unis considèrent toujours le Hamas comme une organisation terroriste et le secrétaire d'État John Kerry a exprimé sa préoccupation hier sur la participation du groupe islamiste au gouvernement. Le président Abbas a tenté de rassurer ses interlocuteurs sur le caractère non violent du gouvernement et la reconnaissance d'Israël. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pressé les dirigeants des grandes puissances de ne pas reconnaître ce gouvernement palestinien. Selon lui, cela ne ferait que renforcer le terrorisme, puisque le Hamas appelle à la destruction d'Israël.
Le gouvernement du président Hamid Karzai se dit préoccupé par la libération d'un soldat américain en échange de 5 extrémistes talibans détenus à Guantanamo Bay. Le Qatar, qui a facilité l'accord, sera l'hôte des 5 prisonniers pendant 1 an. Ils sont interdits de quitter le pays durant cette période, mais pour Kaboul, qui n'a pas été informé d'avance, ce transfert constitue une possible violation du droit international. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, ne partez pas, gardez vos sièges. Sporama, c'est maintenant Nicolas Pinault, Bagassi Koura. On
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Sporama qui sera entièrement consacré à la Coupe du Monde. Avec moi ce soir, Nicolas Pino. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Bagessi, bonsoir à tous.
Voilà, et comme tous les lundis, donc dans notre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sporama et aussi de La Voix de l'Amérique. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct composés. 001-202-619-3140 avec nous ce soir aussi nos consultants. D'abord, Jules Valentin Ngwe à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Badassikoura, bonsoir à tous.
Et nous avons aussi en ligne de Yaoundé, Jean-Bruno Tagnin. Bonsoir Jean-Bruno.
Bonsoir.
Et voilà, et on espère avoir d'ici là Salif Kabore à Ouagadougou, Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. On va commencer tout de suite, puisque Brésil 2014, Nicolas, c'est jour J-10, et ce soir nous faisons plein feu sur ce mondial. Je pense que vous partez au Brésil, c'est ça?
Il paraît. Oui, on partira à la Voix de l'Amérique sur une couverture depuis le Brésil de la Coupe du Monde. On va évidemment en parler matin et soir. Mais c'est vrai que l'actualité hein, aujourd'hui, c'était les listes qui ont été dévoilées par les différents sélectionneurs.
Oui. Par les différents sélectionneurs. On commence d'abord par les Lions Indomptables. Le sélectionneur du Cameroun, Volker Finke, a écarté Jean-Armand Kanambik, Gaëtan Bong, Cédric Loé, Mahamadou Idrissou ou encore Guy Rolandi Assembe. Jean-Bruno, pourquoi le cas Idrissou pose problème, a fait un peu de bruit chez vous au Cameroun?
Alors, il y a beaucoup de polémiques au sujet du cas Idrissou, mais globalement, il y a pas mal de gens qui avaient d'ailleurs été surpris que Idrissou ait été convoqué dans la liste des joueurs présélectionnés, parce que beaucoup estimaient qu'il n'était plus très bon. Il y avait Idrissou et Achille Ouébo. Bon, heureusement pour Achille Ouébo, il a pu passer entre les mailles, ce qui n'a pas été le cas pour Idrissou, qui est très critiqué. Chaque fois qu'il est convoqué en équipe nationale depuis la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud, il a toujours été critiqué. C'est vrai qu'en club, en Allemagne, il marque beaucoup de buts, mais en équipe nationale, il ne marque pas vraiment. Et donc, beaucoup se demandent qu'est-ce qui justifie qu'il soit toujours convoqué. Donc, heureusement, ou alors malheureusement pour certains, il a été mis sur la touche et n'ira pas au Mondial.
Et Jean-Bruno, peut-être à la question et aussi à Jules Valentin Ngwe, on a quatre sélectionneurs adjoints qui entourent Volker Finke. Il est vraiment sélectionneur, est-ce qu'il a les pleins pouvoirs ou c'est une vraie question quand même au sein de la tanière?
Tout à fait, c'est lui, il a les pleins pouvoirs. En fait, il a sollicité de la Fédération camerounaise de football et des autorités du ministère des Sports au Cameroun que lui soit adjoint un certain nombre de personnes qu'il a lui-même choisi, un préparateur physique, un statisticien et puis un analyste vidéo qui sont tous des Allemands. Il n'y a que le préparateur physique qui est français, manouvrier, qui travaille pour Marseille. Donc c'est lui qui a obtenu cette personne-là. Par contre, la Fédération camerounaise de football avait désigné des entraîneurs locaux dont le but était d'aller superviser les adversaires. Ce que Volker Finke n'a jamais accepté parce qu'il a décidé simplement de les ignorer et je pense qu'il avait raison parce que c'est quand même incongru. De nos jours, on n'a pas besoin pour superviser les adversaires d'aller les voir sur les terrains et l'entraîneur ne peut pas travailler avec des gens qu'il n'a pas choisis. Donc malheureusement, la Fédération camerounaise de football a nommé ces entraîneurs-là pour rien du tout parce qu'en ce moment, ils sont en train de sillonner le monde et je ne sais pas pour quel résultat ni pour qui ils vont faire ce travail qu'ils sont en train d'effectuer en ce moment.
Oui, et Jules Valentin, votre avis là-dessus?
Oui, mais il est clair que cette formule est une formule chère aux Camerounais. Déjà avec l'entraîneur soviétique Nepomniachtchi en 1990, il y avait toute une troïka qui l'entourait et on a vu les résultats que ça a donné. Donc ça a marqué les consciences au Cameroun et qui n'a pas été le premier pays à l'appliquer. La France l'a fait aussi en 58 autour d'Albert Batteu et la France s'est hissée à un niveau supérieur par rapport à son football. Donc les Camerounais étaient très inquiets du résultat de leurs équipes et ils veulent mettre des garde-fous un peu partout, même si on sait que la manne venue de la FIFA doit aussi être équitablement répartie.
Et on nous signale aussi que nous avons... Oui, allez-y.
Voilà. Oui, si je peux me permettre, juste pour dire qu'il y a quand même une petite différence avec 1990, parce qu'effectivement, les adjoints de Valéry Nepomniachtchi en 1990 avaient bel et bien été désignés et avaient une fonction dans le staff technique, c'était officiel. Or, cette fois, c'est la fédération qui, unilatéralement, a décidé de choisir un certain nombre d'entraîneurs locaux, soi-disant pour aller superviser les adversaires des Lions Indomptables. Cela signifie qu'ils n'ont pas un rôle précis au sein du staff technique des Lions Indomptables. C'est des types qui ont été sélectionnés comme ça, choisis par la fédération, soi-disant pour superviser les adversaires, sans préalablement en référer à l'entraîneur principal qui a décidé tout simplement de les ignorer, affirmant avoir un cabinet en Allemagne qui l'aide à superviser les matchs des adversaires. Et il a désigné des gens qui lui sont propres, trois Allemands et puis un Français, pour travailler avec lui. Donc c'est un tout petit peu différent de ce qui s'était passé en 90 quand même.
Voilà, merci. Et on nous signale que nous avons Valdo Simoyamba qui est en ligne de Lubumbashi en RDC. Bonsoir Valdo.
Bonsoir, je suis plutôt rentré déjà à Kinshasa. Bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Voilà, vous avez suivi un peu ce débat-là. Est-ce que vous comprenez cette polémique au Cameroun au sujet de certains joueurs qui n'ont pas été retenus, notamment Idrissou?
Bon, c'est tout à fait normal. Hein. Il y a un temps où il faut se passer de beaucoup de choses. Rappelez-vous, déjà en 90, le chemin de Roger Milla était un peu confus. Il fallait bien que le président camerounais puisse s'imposer pour avoir Roger en sélection nationale. Il y a eu également des problèmes au niveau de cette même sélection depuis un certain temps. Donc c'est tout à fait logique. Il faut plutôt, moi je trouve qu'il faut laisser l'entraîneur mettre en place sa disposition. Ce qui importe, c'est le résultat au terme de toute cette campagne d'avant la Coupe du Monde. Pas besoin de tergiverser ou de semer la peur dans la tanière de Lyon. Il faut plutôt laisser cette équipe dans la sérénité, dans le calme. Cette équipe qui a traversé pas mal de problèmes, on sent qu'aujourd'hui il y a une certaine sérénité. Tenir tête à l'Allemagne 2-2, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est une équipe qui a très bien joué. Du moins, c'est plutôt, on devrait laisser l'entraîneur faire son travail, mettre de la confiance dans cet entraîneur. On ne va pas rentrer dans la polémique d'hier où l'équipe est passée in extremis, hein, à côté. Ça a failli ne pas être de rendez-vous de cette Coupe du Monde. Les éliminateurs étaient difficiles. C'était une équipe de Lyon des Indomptables, pas en confiance, mais qui a su se ressaisir juste in extremis. Alors, pour les besoins, moi, j'estime qu'il faut laisser cette équipe-là préparer sa Coupe du Monde. Nous sommes à moins de 2 semaines. Il faudra vraiment qu'on laisse Lyon calme, qu'on laisse cette équipe-là mobiliser psychologiquement. Les Africains n'ont pas cette culture-là, ouais, des Européens. On a vu même la France a mis de côté Nasri. Nasri vient de remporter le championnat d'Angleterre avec Manchester City. Ça fait le buzz, mais c'est Deschamps qui a décidé. Et l'équipe est en train d'évoluer. N'en déplaise à tous ceux qui en veulent au choix de l'entraîneur. Donc moi, j'estime qu'on doit laisser à l'entraîneur. Ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment pour tergiverser, ouais, au sein de l'équipe de Lyon Indomptable du Cameroun.
Alors, on va revenir avec vous, Jean-Bruno Taïen, à Yaoundé. Il y a deux joueurs locaux quand même du Coton Sport qui ont pu être retenus. Qui sont ces deux joueurs-là? Un mot sur eux.
Fédou, qui est gardien de but, il est sociétaire de d'Aroua. C'est l'équipe phare du Cameroun, c'est la dernière équipe au Cameroun qui continue à avoir quand même un parcours assez admirable dans les compétitions africaines. Et le deuxième joueur, c'est Diogoué. Diogoué qui a fait une très très bonne impression dès sa première rentrée sur le stade lors du dernier match amical contre le Paraguay. C'est un défenseur latéral droit. Il a tout de suite séduit l'entraîneur des Lions Indomptables. Lui aussi, il est sociétaire de Coton Sport d'Aroua. Et effectivement, c'est une surprise parce que le sélectionneur Volker Finke avait affirmé il y a quelque temps qu'il y avait très peu de chances pour des joueurs locaux de faire partie de la liste des joueurs devant prendre part à la Coupe du Monde. Finalement, il a essayé de rectifier le tir et on ne peut pas dire que ce soit des sélections de complaisance parce que Diogoué sur le côté droit de la défense du Cameroun a tout à fait rassuré non seulement contre le Paraguay, mais il a été remarquable contre l'Allemagne hier. Donc c'est une sélection qui est tout à fait méritée et ouais, on espère qu'il va faire une très bonne Coupe du Monde également.
Voilà, merci à Jean-Bruno Taïen à Yaoundé au Cameroun. Je crois que nous avons aussi un de nos auditeurs qui est en ligne, Herman.
Oui, oui.
Alors, vous voulez donner votre avis sur les équipes africaines?
Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez à dire?
Bon, en fait, tout à fait. Les équipes africaines, ils sont bien. Ils ont bien le talent. Et pour pouvoir participer à la Coupe du Monde,
ouais,
j'espère qu'ils pourront affronter.
Ah, vous pensez qu'ils iront très loin cette fois-ci?
Voilà.
Et quel est le pays que vous pensez qu'il fera mieux?
Ah, surtout le Ghana.
Ah, le Ghana.
Ouais.
Et pourquoi vous dites ça?
Ouais, ouais.
Pourquoi le Ghana?
Le Ghana, ben, en fait, le Ghana, en tant, est un futur champion.
D'accord. Merci beaucoup de nous avoir appelés.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Jules, vous avez certainement vu certains des matchs de préparation. On va parler notamment de celui du Cameroun, qui a donc fait hier un match nul avec l'Allemagne.
Oui, bien sûr. Ça, c'est un match. En fait, la préparation des Lions Indomptables a été rationnellement planifiée. Les deux premiers matchs étaient surtout, avaient surtout pour objectif de tester les joueurs qui pouvaient être dans la liste finale, tandis que le match contre l'Allemagne était un vrai match test, donc un match qui a été concluant. Tout ce qu'on peut tirer comme leçon de ce match, c'est que premièrement, le couloir droit camerounais, qui était très inquiétant, s'est réveillé, a été redynamisé, et justement, paradoxalement, avec l'entrée, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un joueur local, Ndjegwe de Coton Sport de Garoua, qui a totalement transformé ce côté en apportant et ce que les latéraux ont en Afrique le plus, c'est que ils sont teigneux, ils sont difficiles à passer, et en même temps c'est un joueur porté vers l'attaque où il a eu aussi le soutien de Moukandjo qui a fait un très bon match. Donc finalement, les Camerounais reviennent dans leurs fondamentaux. Ils n'ont pas de meneur de jeu, mais ils ont des couloirs très incisifs et à tout moment ils peuvent frapper par des remontées de ballons impeccables. Et aussi on a pu remarquer que la défense centrale est plus stabilisée avec le duo Matip et Nkoulou, et qui est technique certes, mais qui s'est relancé et qui est impérial dans le jeu aérien, là où les Allemands ont été pratiquement neutralisés. Donc je crois que c'est un match plein d'enseignements qui peut apporter beaucoup au staff technique, et on espère que les joueurs resteront concentrés sur ce qu'ils ont de mieux.
Alors Jean-Bruno Taillet, on imagine qu'à Yaoundé ou à Douala, vous avez été rassuré par ce match, 2-2.
Oui, effectivement, pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que mon collègue qui vient de s'exprimer tout à l'heure a dit. Il a très très bien, à mon avis, hein, résumé cette rencontre-là, parce que c'est une rencontre qui inquiétait beaucoup les supporters des Lions Indomptables, qui avaient encore en mémoire la défaite 1-2 face au Paraguay. Et donc, hier, ont été surpris par l'équipe des Lions Indomptables qui a évolué. Et on a compris que l'entraîneur était tout à fait rationnel dans sa manière de travailler. C'est-à-dire qu'on a vu très bien l'équipe nationale du Cameroun évoluer en régime, monter en régime au fur et à mesure des matchs. Hier, c'était à quelques exceptions près son équipe type de la Coupe du Monde. Et cette équipe-là n'a pas déçu. Dans la défense, l'axe central avec Nicolas Nkoulou et Joël Matip est tout à fait rassurante. Sur le côté droit, avec le jeune Ndjegwe, qui est vraiment la révélation de l'équipe du Cameroun pour cette Coupe du Monde, enfin à la veille de cette Coupe du Monde, donc le côté droit est tout à fait rassurant. Sur le côté gauche, Benoît Assou-Ekotto n'a pas été véritablement impérial. Il n'a rejoint la tanière qu'il y a quelque temps, mercredi dernier, donc il lui manque d'entraînement, c'est peut-être pour cela. Mais avant son entrée, il y a Bédimo qui a fait du bon travail.
Ouais.
Dans l'axe central, On a vu Alexon qui a été vraiment bon. Et en attaque, Choupo-Moting, c'est le meilleur en ce moment. Et des confrères de Eurosport lui ont d'ailleurs donné la note de 9 sur 10. Je pense que c'est une équipe du Cameroun qui a été assez bonne, qui a rassuré ses spectateurs. Mais maintenant, il ne faudrait pas qu'on s'excite trop vite. C'est vrai, c'était certes l'Allemagne, mais ce n'était qu'un match amical. Il faut simplement espérer que la même envie de gagner qu'on a vu chez les Lions Indomptables persiste ouais. jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et avec ça, on peut être sûr qu'on ne fera pas pâle figure.
Et toi, tu as été particulièrement remarquable malgré son âge pour un peu...
Peut-être pas son âge. Il ne faudrait pas retourner le couteau dans la plaie. Peut-être pas son âge, mais il faut dire que
c'est lui qui fait la danse du vieillard à la fin.
Parce qu'il a une petite blessure.
Oui, il fait toujours la danse du vieillard à la fin de après avoir marqué
ouais,
chaque but.
Hein. Voilà. Personnellement, je trouve qu'il en fait un peu trop. Voilà. Je trouve qu'il en fait un peu trop. Il ouais. avait déjà donné la réplique à Mourinho. Et je pense que il risque d'être ridicule s'il continue à revenir sur cette affaire qui n'a pas beaucoup grandi Mourinho. Il lui avait donné une cinglante réponse. Il faudrait qu'il tourne la page et passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser sur une histoire de vieillesse ou pas vieillesse. La meilleure réponse est sur le stade. Il l'avait déjà fait en Angleterre. Et maintenant, il faudrait qu'il le fasse en Coupe du Monde en nous marquant des buts comme Roger Milla l'avait fait.
Et puis on va parler d'un autre vieillard, entre guillemets, c'est Didier Drogba, évidemment. Les deux équipes francophones qu'on suit avec attention. Didier qui a un peu sauvé la mise hein, pour les Ivoiriens, qui n'étaient pas très convaincants face à la Bosnie hein, lors d'un match amical, c'était vendredi. Jules Valentin, justement, cette Drogba dépendance de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un problème possible pour la Côte d'Ivoire?
Non, moi je trouve que, et je l'ai dit depuis très longtemps, que Drogba est très utile. On ne retrouve pas des avances entre types comme cela sur le marché à l'heure actuelle. On a des attaquants polyvalents, mais des pointeurs, des tueurs de match, ils sont rares. Bon, alors Drogba est très utile. Bon, mais voilà, c'est que la Côte d'Ivoire, en fait, paye peut-être le syndrome de l'équipe favorite. Bon, donc en Afrique, généralement, quand une équipe est attendue, et le plus souvent, on la décrypte jusqu'aux dernières coutures, et généralement, on fait tout pour la contrer. Et c'est ça a été le cas pour le Cameroun en 2002, où il était présenté comme un favori. Et ça sera sûrement le cas pour la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont très attendus. Bon, donc, il faut jouer avec, tout se joue sur des petits détails, ça peut être des coups de pied arrêtés, ça peut être l'expérience d'un joueur comme Drogba, justement, et wait and see.
Alors, vous avez suivi tout ça, Valdo, du côté de Kinshasa, vous avez quelque chose à ajouter?
Évidemment, s'il faut revenir sur les problèmes d'âge qu'on essaie d'évoquer, notamment avec Samuel Eto'o.
Ah, ils sont jeunes, hein, ils sont tous
le
jeunes.
Le Cameroun fait avec, hein, même depuis toujours. Le Cameroun, les Lions Indomptables, ça mène toujours dans des compétitions majeures avec des joueurs qui ont un certain âge déjà avancé. Mais cela n'est pas le besoin. C'est plutôt sur le plan psychologique, physiquement, s'ils se disent prêts à jouer, prêts à porter leur expertise au niveau de l'équipe nationale. Ça va très, très bien. Hein, parce que, rappelez-vous, il y a un certain Luiz Nazário de Lima, les Brésiliens. Ronaldo qui se dit psychologiquement prêt à jouer, mais physiquement son corps ne répondait plus. Mais là, Samuel Eto'o, il se le joue peut-être comme un petit enfant, et c'est plutôt, il retrouve, il régale, il joue, il blague, c'est qu'il est psychologiquement au point, capable d'inscrire encore autant de buts. Donc physiquement, il est au point. L'âge, ce n'est vraiment qu'un facteur qu'on a souvent tendance à regarder. C'est à 32, 33, on sait que ça vieillit déjà. Moi, du moins, physiquement, si on est capable d'inscrire des buts comme il a fait face à l'Allemagne, c'est déjà un bon signe pour lui. Didier Drogba, certes, troisième Coupe du Monde d'affilée, il sait que c'est...
Ah, on a perdu notre ami.
On
a perdu,
mais on reste à Kinshasa parce qu'on a un de nos auditeurs qui est en ligne. Bonsoir. Babki, vous nous entendez? Ben, on va.
Oui, je vous écoute.
Oui, alors, on vous écoute alors. Oui, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe du Cameroun?
Bon, en fait, on a vu hier une équipe là très belle sur le terrain. De toute façon, je suis un peu sceptique. C'est parce que cette équipe là va briser. Tu vois, il n'y a rien du tout. Je ne sais pas ce que les Camerounais vont faire devant Brésil dans leur premier match là. Alors, en ce moment, je suis sûr, il faut mettre un point de vue en ce qui concerne les participations des équipes africaines à la Coupe du Monde. Je suis un peu, sceptique, c'est parce que je ne vois pas une belle équipe là, qui peut défendre l'Afrique à cette compétition-là. Je croyais, en fait, je faisais un peu confiance sur l'équipe là ivoirienne, mais avec les dogmations, j'ai eu tout console et Touré tout console. Bon, moi, je suis un peu sceptique, hein, des cinq équipes nationales qui vont représenter, l'Afrique dans un assemblée mondiale là.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.
La Guinée, mon sort.
Voilà, vous suivez Sporama sur la Voix de l'Amérique. Je crois que Nicolas va parler aussi des équipes anglophones Nigeria-Ghana.
Eh oui, hein, peut-être les favoris de ces équipes africaines, parce que nous, francophones, on parle beaucoup évidemment de nos amis camerounais ivoiriens, mais c'est vrai que les champions d'Afrique, hein, notamment, hein, et les Black Stars, qui ont jusque-là réalisé une belle performance, hein, c'était en 2010, évidemment, ce pénalty laborieux qui nous a tués, évidemment, à Johannesburg contre l'Uruguay. Mais peut-être.
Il faut noter ce match amical samedi à Rotterdam contre les Pays-Bas, où le Ghana a été défait, donc 1-0. Mais le Ghana a publié sa liste donc de 23, ceux qui vont aller donc au Mondial. Et on retrouve tous les grands joueurs sont là avec une certaine expérience. Certains sont allés à la Coupe du Monde 3 ou 4 fois. Donc le Ghana va avec une équipe très expérimentée. On va voir, on va prendre l'avis de Jules là-dessus. Jules, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe ghanéenne?
Oui, le Ghana est fidèle à lui-même. Le Ghana qui a toujours peut-être un avantage sur les autres équipes africaines, un fond de jeu et disons qu'un collectif toujours impressionnant. Donc le Ghana sera un bon représentant. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les équipes africaines ne vont plus seulement pour essayer de bien jouer ou de tenir le ballon. C'est que la Coupe du Monde maintenant se joue sur des détails. Alors, c'est là où nos représentants devront éviter de faire des fautes à l'entrée des surfaces de réparation où les Européens, les Sud-Américains sont très précis dans les coups francs et même les Asiatiques à l'heure actuelle et, ma foi, et le plus souvent, aussi éviter et gérer mieux les temps forts de l'équipe adverse, notamment en début de mi-temps ou en fin de mi-temps. Donc, le Ghana est une valeur sûre, comme la Côte d'Ivoire, comme même l'Algérie qui monte en puissance depuis quelques temps, dont on s'y attendait. En fait, la grosse inconnue, c'était le Cameroun.
Alors là, il faut remarquer que les deux équipes anglophones partent avec des entraîneurs locaux, Stéphane Keshi pour le Nigeria. Et Appiah pour le Ghana. Jean-Bruno Taillé, est-ce qu'on peut dire que le Brésil d'Afrique va au Brésil concernant le Ghana?
Oui, je pense que mes coups de cœur pour cette Coupe du Monde, ce sont les représentants de l'Afrique anglophone, c'est-à-dire le Ghana et le Nigeria. D'abord parce qu'il y a une certaine stabilité sur le banc des touches, à la différence du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui ont un effectif vieillissant. Ce sont des équipes qui sont quand même rajeunies par rapport à 2010. Et donc cette stabilité sur le banc de touche qui manque cruellement au Cameroun, par exemple, je vous rappelle qu'entre 2010, date de la dernière Coupe du Monde, et aujourd'hui, ce sont écoulés 4 ans, et 5 entraîneurs sont passés sur le banc de touche des Lions indomptables. On ne peut pas faire une équipe cohérente, on ne peut pas faire une bonne sélection avec une telle instabilité sur le banc de touche. Et je pense que c'est à ce niveau qu'un pays comme le Ghana a un grand avantage avec son entraîneur Appiah et le Nigeria également avec Stéphane Keshi. Donc cette stabilité sur le banc de touche est à l'avantage de ces deux pays-là qui me semblent être capables de pouvoir faire une bonne participation à la Coupe du Monde. Moi, j'ai regardé quelques matchs amicaux. Ce n'est pas encore la vitesse de croisière, mais on voit quand même des gens qui ont beaucoup à donner. Et comme je vous le disais, ce sont mes coups de cœur pour l'Afrique lors de la Coupe du Monde au Brésil.
Voilà, merci Jean-Bruno Tahin. Ainsi s'achève notre émission. Merci à Jules Valentin Goué qui était en ligne de Libreville, à Jean-Bruno Tahin en ligne de Yaoundé et Salif Kabore que nous n'avons pas pu avoir de Ouagadougou. Et puis Nicolas, la semaine prochaine, on vous retrouve du côté du Brésil.
Du côté de Sao Paulo.
Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Sporama sur la voie de l'Amérique.